Cet ensemble de nerfs dédiés à nos entrailles a la particularité de faire sa vie sans rien demander à personne. On l'appelle aussi le système nerveux autonome. Si l'on coupe les voies de communication entre ce système et le cerveau, le spectacle donné dans nos viscères ne s'interrompt pas pour autant, et les interprètes continuent de s'activer gaiement pour accomplir le travail de digestion. Le phénomène est unique dans le corps humain. Les jambes, dans un cas pareil, seraient incapables de nous porter, et les poumons en auraient le souffle coupé. C'est fascinant. Et en même temps, on peut regretter qu'il soit impossible pour nous d'assister au travail de ces fibres nerveuses très émancipées. J'en conviens, un rot ou un paix n'ont peut-être rien de très raffiné, mais sachez-le, les mouvements qui les induisent sont aussi élégants que ceux d'une danseuse étoile. Chapitre 7. Le grand voyage de la nourriture. Je vous invite maintenant à suivre le chemin du morceau de gâteau avant et après le grand pouf. Les yeux. Les particules de lumière qui rebondissent sur la part de gâteau sont projetées sur la rétine et activent les nerfs optiques. À l'issue d'une petite promenade dans les circonvolutions cérébrales, cette première impression est envoyée au cortex visuel, situé au centre du cerveau, à peu près à la même hauteur qu'une queue de cheval haute. Le cerveau utilise ici les signaux nerveux délivrés pour bricoler une image. Et hop, nous voyons enfin notre part de gâteau. Ce cliché alléchant est alors transmis ailleurs. Le centre salivaire, qui contrôle la sécrétion de salive, reçoit une lettre d'information et nous en avons aussitôt l'eau à la bouche. De même, à la seule vue de cette gâterie, notre estomac s'en lèche les babines et sécrète un peu de suc gastrique. Le nez. La cavité nasale ne s'arrête pas là où le doigt, lui, se retrouve coincé quand il part en exploration. Plus haut, nous entrons dans le royaume des nerfs olfactifs, qui sont recouverts d'une couche protectrice de mucus. Tout ce que nous sentons doit d'abord être dissous dans ce mucus pour pouvoir atteindre les nerfs. Les nerfs olfactifs sont de vrais spécialistes. Il y a, pour une multitude d'odeurs différentes, toute une série de récepteurs spécifiquement dédiés. Certains récepteurs peuvent pendouiller pendant des années dans notre nez sans avoir rien à faire. Puis arrive le grand jour. Une seule molécule olfactive de muguet rencontre le récepteur qui n'attendait que ça. Et celui-ci, enfin, peut lancer fièrement au cerveau « Muguet !» Après quoi, il se retrouve au chômage technique pendant plusieurs années. Pour info, sachez aussi que les chiens disposent de bien plus de récepteurs olfactifs que l'être humain. Et pourtant, nous en avons un certain nombre. Pour que nous puissions humer le délicieux parfum de notre part de gâteau, il faut que certaines molécules surfent sur un courant d'air et soient attirées à l'intérieur de la cavité nasale lors de l'inspiration. Parmi elles peuvent se trouver des arômes de vanille, de minuscules molécules de plastique provenant d'une petite cuillère jetable ou des vapeurs d'alcool dégagées par un biscuit gorgé de rhum. Notre organe olfactif est un goûteur chevronné. Plus la petite cuillère chargée d'une première bouchée de gâteau se rapproche de la bouche, plus il y a de molécules qui s'en détachent et affluent vers les narines. Sur les derniers centimètres de ce parcours, si nous décelons la présence d'alcool, le bras peut alors faire demi-tour, les yeux peuvent entamer une inspection plus approfondie, la bouche peut demander s'il y a de l'alcool dans ce gâteau ou depuis combien de temps il traîne dans le frigo. Et une fois que le cerveau a donné sa bénédiction, snip, snap, gob, gobé. Par le gosier de l'intéressé, la bouchée de gâteau est passée et le rideau se lève sur la première scène du ballet. La bouche. La bouche aime les superlatifs. Le muscle le plus puissant du corps humain se trouve être celui de la mâchoire, tandis que celui de la langue est le muscle strié le plus agile. Quand ils travaillent ensemble, ces deux-là font des miracles en matière de puissance de broyage et d'agilité. Au royaume des superlatifs, l'émail de nos dents se déforme bien lui aussi. puisque c'est le matériau le plus dur que nous soyons capables de fabriquer. Un record qui a sa raison d'être. Avec notre mâchoire, nous exerçons sur une molaire une pression qui peut aller jusqu'à 80 kg, soit le poids d'un homme adulte. Pendant un repas, quand nous tombons sur quelque chose de très dur, c'est comme si nous ordonnions à toute une équipe de footballeurs professionnels de piétiner l'aliment incriminé pour que nous puissions l'avaler. Pour une bouchée de gâteau, cependant, inutile d'exercer la force maximale. Quelques joueurs de l'équipe des minimes devraient suffire. La mastication commence et, pour la langue, le moment est venu d'entrer en scène. Ici, c'est elle le coach. Quand de petits morceaux de gâteau craintifs s'égarent loin des chaînes de broyage-concassage, la langue les remet gentiment sur le droit chemin. Une fois la bouchée de gâteau suffisamment mâchée, ce qui lui permet d'accéder au rang de bol alimentaire, on passe à la déglutition. La langue attrape une petite portion du bol alimentaire, environ 20 ml, et la propulse vers le palais mou, juste avant l'œsophage. Cette partie du palais fonctionne comme un interrupteur. Il suffit d'appuyer dessus pour mettre en marche le programme de déglutition. La bouche est alors verrouillée. À cette étape, déjà, courant d'air et digestion ne font pas bon ménage. Et notre gâteau mâché est repoussé tout au fond, dans le pharynx. Attention ! Carrefour dangereux entre les voies respiratoires et digestives. Le pharynx. Au niveau du pharynx, deux portiers, le voile du palais et le muscle constricteur supérieur, se chargent de fermer cérémonieusement les derniers accès au nez. Le mouvement est si marqué qu'un peu plus loin, on peut encore l'entendre. Les oreilles perçoivent alors un « plop ». Les cordes vocales sont priées de se taire et l'épiglotte, tel un chef d'orchestre, se dresse majestueusement, le mouvement est perceptible au niveau du cou, tandis que toute la base de la bouche s'abaisse. C'est alors qu'une vague de salive emporte la minuscule portion de gâteau et la fait disparaître dans l'œsophage. Rideau, applaudissements. L'œsophage. Il a fallu à notre bouillie de gâteau entre 5 et 10 secondes environ pour parcourir ce chemin. Pendant la déglutition, l'œsophage fait la hola. Quand le bol alimentaire arrive, il s'élargit. Et quand il est passé, il se referme. C'est ce qui permet à notre menu de ne pas repartir dans l'autre sens. La procédure est si bien automatisée que nous pouvons même déglutir tout en faisant le poirier. Sans se soucier un seul instant de la pesanteur, notre morceau de gâteau descend donc avec grâce le long de notre buste. Les adeptes de breakdance rapprocheraient ce mouvement de la figure du serpent ou du ver. Les médecins, eux, on choisit pour décrire ce phénomène le terme a priori moins parlant de péristaltisme, qui désigne l'ensemble des contractions musculaires permettant la progression du bol alimentaire. Le premier tiers de l'œsophage est enveloppé de muscles striés, ce qui explique que nous ayons encore conscience de la première étape du chemin. Le monde de l'inconscient ne commence qu'après le petit renfoncement que nous pouvons palper tout en haut du sternum. À partir de là, l'œsophage n'est plus entouré que de muscles lisses. La partie inférieure de l'œsophage est fermée par un muscle en forme d'anneau, le sphincter œsophagien inférieur. Tout ce mouvement, qu'on parle de la hola ou de figure de breakdance, est communicatif. Le muscle swing un peu lui aussi et se détend pendant 8 secondes. L'œsophage s'ouvre ainsi sur l'estomac et le bout de gâteau saisit l'occasion pour plonger. Ensuite, le sphincter se contracte et l'orifice se referme, tandis qu'à l'étage supérieur, dans le pharynx, on respire à nouveau. Le premier acte du spectacle, le parcours qui va de la bouche à l'estomac, demande un maximum de concentration et une bonne coordination. C'est un travail d'équipe qui nécessite d'être soigneusement étudié. Dans le ventre de nos mères, déjà, nous nous entraînons à déglutir et pouvons avaler jusqu'à 1 demi-litre de liquide amniotique. Si jamais nous faisons une fausse route, inutile d'appeler les secours. Nous baignons dans ce liquide et nos poumons en sont remplis, de sorte que nous ne pouvons pas vraiment nous étrangler au sens classique du terme. À l'âge adulte, nous déglutissons entre 600 et 2000 fois par jour. Ce faisant, nous activons plus de 20 paires de muscles. Et la plupart du temps, les choses vont comme sur des roulettes. En vieillissant, nous avons tendance à avaler plus souvent de travers. Les muscles qui coordonnent le spectacle ne respectent plus aussi bien la chorégraphie. Le muscle constricteur supérieur a parfois un temps de retard et l'épiglotte a besoin d'une canne pour se lever. Dans ces moments tragiques, tapoter sur le dos de celui qui s'étouffe part certainement d'une bonne intention. Mais le résultat, c'est surtout qu'on flanque la frousse aux vieux interprètes de ballet. Avant que les quintes de toux salvatrices deviennent une habitude, mieux vaut consulter un orthophoniste qui fera faire un peu de sport à toute la compagnie. L'estomac. Notre estomac est un vrai contorsionniste. Si au figuré, il est assez souple pour se retrouver dans nos talons, dans la réalité aussi, c'est un vrai pro des étirements. Juste avant le grand plongeon de notre morceau de gâteau, l'estomac se détend, et tant que la nourriture afflue, il s'étend et s'étire à l'envi. Il fait de la place à tous ceux qui veulent entrer. 1 kilo de gâteau, soit à peu près le volume d'une brique de lait? Aucun problème, notre petit hamac extensible l'accueille volontiers. Mais il a quand même aussi ses limites. Des émotions comme le stress ou la peur peuvent nuire à la dilatation de ses muscles lisses et nous sommes alors plus vite rassasiés ou déjà écœurés après une petite portion. Une fois le gâteau arrivé à destination, les parois de l'estomac accélèrent leur mouvement, comme les jambes sur une piste d'élan, et paf, allonge une bonne bourrade au bol alimentaire. Le gâteau fait un vol plané, rebondit sur la paroi stomacale et repart dans l'autre sens. C'est ce que les médecins appellent la rétropulsion. Et les grands frères, on va voir jusqu'où tu peux voler. Mettons tout le monde d'accord et parlons tout simplement ici de brassage. Travaillant de concert, le pas de course et la bourrade produisent ensemble ces gargouilles typiques que nous percevons en collant notre oreille contre le ventre de quelqu'un, tout en haut, dans le petit triangle où se rejoignent les arcs costaux gauche et droit. Quand le petit hamac se balance ainsi gaiement, il incite tout le tube digestif à swinguer avec lui. L'intestin fait alors lui aussi avancer son contenu et libère de la place pour ce qui suit. Voilà pourquoi, après un repas copieux, le temps qui s'écoule entre le dessert et le besoin impérieux d'aller aux toilettes peut être relativement court. Ce petit bout de gâteau que vous avez avalé en début de chapitre suffit déjà à révolutionner vos entrailles. L'estomac va se balancer pendant environ 2 heures, brasser son contenu dans un sens et dans l'autre, et moudre chaque bouchée en minuscules particules. La plupart ne dépassent pas 0,2 mm. Arrivé à ce stade d'insignifiance, les miettes abandonnent la partie de badminton contre les parois de l'estomac et préfèrent aller faire des glissades. Au bout de l'estomac, elles disparaissent par un petit trou comme si c'était la bande de la baignoire. Ce rétrécissement porte le nom de pylore, du grec « gardien des portes ». Son rôle est de surveiller la sortie de l'estomac et l'entrée de l'intestin grêle. Les glucides simples, comme la pâte à tarte, le riz ou les pâtes, s'engouffrent rapidement vers l'intestin grêle, où ils seront digérés, assurant une augmentation rapide de la glycémie. En revanche, quand il repère des protéines et des lipides, le gardien les retient plus longtemps dans l'estomac. Un morceau d'entrecôte peut par exemple se balancer 6 heures dans notre petit hamac avant d'être livré intégralement à l'intestin grêle. Pas étonnant, donc, que nous ayons une terrible envie de dessert après avoir mangé de la viande ou des beignets bien gras. Notre sang réclame sa dose glycémique et la mousse au chocolat lui donne déjà un petit acompte. Les repas riches en glucides fournissent ainsi de l'énergie en 2 temps 3 mouvements, mais ils ne rassasient pas aussi efficacement que les protéines ou les lipides. L'intestin grêle. Dès que les minuscules miettes sont arrivées dans l'intestin grêle, l'heure de la véritable digestion a sonné. Le moment est venu d'extraire les nutriments. La bouillie multicolore obtenue à partir d'une cuillerée de gâteau change de nom pour l'occasion et, dès le pylore passé, devient le chyme. Au cours de son voyage le long de l'intestin grêle, le chyme va disparaître presque en totalité par les parois. un peu comme Harry Potter traversant le mur pour rejoindre le quai 9¾. L'intestin grêle saisit notre bout de gâteau à bras-le-corps. Il le malaxe sur place, le hache menu, y plonge ses vilosités et emploie toute son énergie à faire progresser la bouillie remasterisée. Au microscope, on voit que même les plus petites vilosités intestinales s'appliquent à faire avancer le schmilblick, montant et descendant comme de petites pattes qui s'agitent. Tout, oui, tout est en mouvement. Quoi que fasse notre intestin grêle, il suit ce principe fondamental. Continuons le combat, ne nous arrêtons pas en si bonne voie. C'est là qu'intervient le réflexe péristaltique. Le premier scientifique à avoir mis en valeur ce mécanisme a isolé un morceau d'intestin, puis y a insufflé de l'air par un petit tuyau, et l'intestin, courtois, a soufflé de l'air en retour. Pour assurer le dynamisme du transit, les médecins recommandent donc un régime riche en fibres. Les fibres alimentaires n'étant pas digérées par les enzymes, elles exercent une pression sur les parois de l'intestin qui répondent alors à l'identique. Cette gymnastique intestinale garantit un traitement plus rapide de la nourriture et une bonne consistance à l'arrivée. Si le chyme était un chyme attentif, il entendrait peut-être aussi les « hop » lancés d'un bout à l'autre de l'intestin grêle. Celui-ci abrite un très grand nombre de cellules autorythmiques qui génèrent de brefs flux électriques. Pour les muscles de l'intestin, c'est comme si on criait « et hop, et hop ». De cette manière, le muscle n'en fait pas qu'à sa tête et suit le rythme imposé par son entraîneur. Et hop, le gâteau, ou plutôt ce qu'il en reste, continue son chemin dans la bonne direction. Au département digestion, l'intestin grêle pourrait être celui des collègues qui obtient la médaille du travail tant il est scrupuleux. Quand on lui confie un projet digestif, il le fait toujours avancer. À une exception près, quand on rend tripes et boyaux. L'intestin grêle se montre alors très pragmatique. Il ne va quand même pas employer toute son énergie à s'occuper de quelque chose qui ne nous profite pas. Ni une, ni deux. Il renvoie le tout à la case départ sans prendre la peine de le digérer. Mis à part quelques résidus, notre gâteau a maintenant disparu dans le sang. Nous pourrions prendre en chasse ces quelques restes et les suivre dans le gros intestin, mais nous raterions alors une étrange créature que nous entendons parfois sans bien la comprendre. Une fois la digestion accomplie, l'estomac et l'intestin grêle ne contiennent plus que de grossiers résidus. Des comprimés gastro-résistants, par exemple, un grain de maïs mal mâché, des bactéries alimentaires qui ont survécu ou un chewing-gum avalé par inadvertance. Notre intestin grêle est un maniaque de la propreté. Il fait partie de ceux qui, après un bon dîner, vont aussitôt débarrasser la table et remettre de l'ordre dans la cuisine. Passez dire bonjour à l'intestin grêle 2 heures après la digestion et vous ne trouverez rien de rebutant. Tout est propre et quasiment sans odeur. 1 heure après avoir digéré, l'intestin grêle lance le programme auto-nettoyant. Les manuels évoquent ce processus sous le nom de « complexe moteur migrant », CMM. Le pylore, vous vous souvenez, le gardien posté à la sortie de l'estomac, ouvre alors gentiment ses portes et se débarrasse de tous ses déchets dans l'intestin grêle. Celui-ci prend les commandes et génère une onde puissante qui balaie le tout vers la sortie. La scène filmée est si touchante que même les plus scientifiques des scientifiques ont trouvé un petit nom au CMM, baptisé Housekeeper, la fée du logis. Chacun d'entre nous a déjà surpris sa petite fée du logis en pleine action. Nous l'entendons s'activer. Ce sont les borborygmes que nous identifions en disant « j'ai l'estomac qui gargouille ». En réalité, plutôt que l'estomac, c'est surtout l'intestin grêle qui gargouille. Et si nous gargouillons, ce n'est pas non plus parce que nous avons faim. Le seul moment où nous pouvons faire un peu de ménage, c'est entre deux cycles digestifs, quand l'estomac et l'intestin grêle sont vides. La voie est alors libre et la petite fée du logis peut se mettre au travail. Quand l'entrecôte se balance plusieurs heures dans notre hamac estomacal, elle doit patienter un long moment avant de pouvoir passer un coup de balai. 6 heures maximum dans l'estomac et environ 5 heures dans l'intestin grêle. Après l'entrecôte, il faut attendre environ 11 heures avant que puisse commencer le grand ménage. Notre fée du logis ne fait pas toujours de raffus. Il lui arrive aussi de travailler très discrètement, selon la quantité d'air contenu dans l'estomac et l'intestin grêle. Dès que nous mangeons, elle s'interrompt. Pas question d'évacuer d'un coup de balai ce que nous avalons. La digestion exige du calme. Vous l'aurez compris, quand on grignote sans arrêt, les coups de balai se font plus rares. Le fonctionnement de notre programme auto-nettoyant corrobore le conseil des nutritionnistes qui recommande une pause de 5 heures entre les repas, même si rien ne prouve que nous ayons tous exactement besoin de ces 5 heures. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'en mâchant bien les aliments, on simplifie la tâche de sa petite fée du logis. Et quand il s'agit de prévoir l'heure du prochain repas, on peut alors tout simplement se fier à ses tripes. Le gros intestin. L'intestin grêle se termine par la valvule iléo-cécale, qui le sépare du gros intestin. Les deux intestins, le grêle et le gros, n'ont en effet pas la même philosophie du travail. Le gros intestin est plutôt du genre tranquille. Sa devise n'est pas forcément « Continuons, ne nous arrêtons pas ». Il lui arrive aussi de déplacer des résidus alimentaires dans un sens, puis dans l'autre. Il suit son instinct. Chez lui, pas de petite fée du logis armée d'un grand balai. Le gros intestin est un havre de paix, où notre flore intestinale peut s'épanouir en toute quiétude. Quand le grand ménage balaie jusqu'ici ce qui n'a pas été digéré plus haut, c'est elle qui va s'en charger. Le gros intestin travaille tranquillement parce qu'il doit tenir compte de plusieurs acteurs. Notre cerveau n'a pas forcément envie d'aller aux toilettes toutes les deux minutes. Nos bactéries intestinales veulent prendre leur temps pour assimiler la nourriture qui ne l'a pas encore été. Et le reste de notre corps attend de pouvoir récupérer les liquides biologiques mis à disposition pour la digestion. Ce qui arrive dans le gros intestin n'a plus grand-chose à voir avec notre part de gâteau. Heureusement, on retrouvera peut-être encore quelques-unes des fibres de la cerise qui ornaient le petit dôme de chantilly. Mais pour le reste, il ne s'agit plus que de sucs digestifs qui vont être résorbés dans le gros intestin. Quand la peur nous saisit, notre cerveau arrache notre gros intestin à sa tranquillité. Celui-ci n'a alors plus assez de temps pour résorber les liquides et nous avons la colique. Chier dans son froc, c'est donc le résultat d'une réalité scientifique. Le gros intestin, comme l'intestin grêle, est un tuyau bien lisse. Pourtant, quand on le dessine, on le représente toujours sous la forme d'un collier de grosses perles. Pourquoi ? Si on vous ouvrait le ventre, là, maintenant, tout de suite, il ressemblerait effectivement à cela. Mais c'est uniquement parce qu'il est justement en train de faire sa séance de gymnastique. Disons qu'il est plus adepte de qigong que d'aérobic. Comme l'intestin grêle, tandis qu'il malaxe son contenu, il forme des plis et des poches dans lesquelles il peut mieux retenir les aliments. Mais il travaille au ralenti et reste donc un long moment dans la même position sans bouger. Un peu comme un mime de rue qui se fige avant qu'on lui donne une pièce. Après quelques instants, le gros intestin se détend et va former ailleurs des plis et des poches, puis se fige, et ainsi de suite. Les manuels, eux, s'en tiennent à la version du collier de perles, de même que celui qui louche sur la photo de classe restera à jamais le bigleu. 3 à 4 fois par jour, le gros intestin se secoue un peu et montre un peu plus d'entrain à faire avancer le chyme. Si la masse est suffisante, on peut même faire la vidange à chaque fois, soit 3 à 4 fois par jour. Pour la plupart d'entre nous, cependant, le contenu du gros intestin correspond à une grosse commission par jour. Si vous êtes plutôt dans la catégorie 3 fois par semaine, pas de panique. Vous êtes toujours dans la moyenne saine. Le gros intestin féminin est en général un peu plus flegmatique que son collègue masculin. Pourquoi ? La médecine n'a pas encore la réponse, mais les hormones ne semblent pas jouer ici un rôle prépondérant. Entre la petite cuillère chargée d'une bouchée de gâteau et le résultat au fond de la cuvette, il s'écoule en moyenne une journée. Les intestins rapides bouclent l'affaire en 8 heures, les plus lents, en 3 jours et demi. Compte tenu du brassage, certaines particules de gâteau peuvent arriver à destination au bout de 12 heures, tandis que d'autres ne quitteront le salon de massage du gros intestin qu'après 42 heures. Tant que la consistance est correcte et qu'ils n'ont à se plaindre d'aucun maux, les intestins tranquilles n'ont pas de soucis à se faire. Au contraire, si vous êtes de ceux qui cochent la case une fois par jour ou moins, ou s'il vous arrive d'être constipé, vous avez, selon une étude néerlandaise, moins de risques d'être un jour atteint de certaines maladies du rectum. Comme dirait le gros intestin, patience et longueur de temps font mieux que force ni que rage. Chapitre 8. Ça vous laisse un goût amer. L'estomac peut lui aussi rater la marche. Comme les muscles striés des jambes, ces muscles lisses ne sont pas à l'abri d'un faux pas. La conséquence de ce ratage, c'est par exemple du suc gastrique qui se retrouve là où il ne devrait pas être. Résultat, ça brûle. Dans le cas des remontées acides, du suc gastrique et des enzymes digestives remontent jusque dans le pharynx. Dans le cas du reflux gastro-œsophagien, ils n'arrivent que jusqu'à l'entrée de l'œsophage et sont responsables de sensations de brûlure dans la poitrine. La cause de ces renvois est la même que lorsque nous ratons la marche. Les responsables, ce sont les nerfs. Ce sont eux qui régulent les muscles. Si les nerfs optiques n'ont pas repéré la marche, les nerfs des jambes seront mal informés. Les jambes vont avancer comme s'il n'y avait pas d'obstacle, et patatras, vous vous retrouvez par terre.